Paraolostoc, chronique occitane, par Marie-Jeanne Verny.
Bonjour à toutes. Je voudrais donc vous parler de nouveau du livre de Philippe Martel, Études de langue et d'histoire occitane, paru en 2015 aux éditions Lambert-Lucas. Donc, je vous ai parlé du premier chapitre de cet ouvrage dans une chronique précédente qui posait la question de comment écrire une histoire d'Occitanie et comment l'histoire de l'Occitanie avait été écrite, soit par ceux qui n'y croient pas, soit par ceux qui y croient trop. Je schématise un petit peu, mais en gros, c'est ça. Le livre qui parle de l'histoire, des études de Martel à travers l'histoire, donc médiévale, 19e siècle, 20e siècle, a aussi, comme le premier et comme le dernier dont je vais parler, quelques chapitres généraux et s'achève par le mot futur. Le mot futur termine le dernier chapitre qui s'appelle « Les langues de France au futur ». Et je voudrais vous lire un extrait de ce dernier chapitre qui vous montrera les intentions de l'auteur. Cet extrait s'appelle « Comment peut-on être minoritaire ?» C'est très simple. Il suffit de perdre le pouvoir politique. La date de l'annexion des régions à culture minoritaire varie selon les cas. La Bretagne a été incorporée au Royaume de France en 1532. L'Alsace est chroniquement conquise et perdue au gré des performances militaires respectives de l'Allemagne et de la France. 1648, 1871, 1918, 1940, 1945. Le Pays basque, lui, subit le sort du royaume de Navarre, dont le souverain, à partir d'Henri IV, est en même temps roi de France. Les différentes composantes de l'espace occitan sont absorbées entre le XIIIe siècle, Auvergne et Languedoc, et le XIXe siècle, Nice. En tout état de cause, ce qui importe, c'est moins l'annexion en elle-même que la mise en place d'une administration française suffisamment puissante pour faire échec aux derniers débris des pouvoirs locaux, villes, parlements, cours seigneuriales, et pour imposer l'usage administratif du français au nom de cet édit de Villers-Cotterêts, 1539, appelé par les programmes les plus récents à remplacer l'ineffable 1515 dans la mémoire de nos bambins. Progressivement, de plus ou moins bon gré et avec plus ou moins de compétences linguistiques, notaires, tabellions et autres gratte-papiers abandonnent l'usage de leur langue quand cette dernière était utilisée dans les actes. C'était le cas pour l'occitan, le catalan et l'allemand, et donc passent au français. On mesure les conséquences. Techniquement, dans le cas de l'occitan, cela signifie la ruine de la scripta administrative relativement cohérente qui s'était constituée pendant le Moyen-Âge et le début d'une longue période d'anarchie graphique. Psychologiquement, socialement, cela signifie la déchéance de la langue vernaculaire, qui n'a plus aucune existence juridique. C'est le français qu'il faut connaître quand on a affaire à l'autorité. Et qui n'a pas affaire à l'autorité à un moment ou à un autre? Mais je voudrais dire la fin de l'article. Et pourtant, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Nous, minoritaires, n'avons plus rien à perdre à lutter pour un autre type de fonctionnement culturel où nos langues aient leur place, toute leur place, et non le strapontin du bouffon ou l'étagère de l'ours en peluche pour grands enfants nostalgiques. Mais les majoritaires non plus n'ont rien à y perdre et tout à y gagner, à commencer par l'assurance qui ne viendra pas un jour où, par la force des choses, ils se verront à leur tour condamnés à parler une langue qui s'éteint. Voilà. Ce passage dit bien la force de l'engagement de Martel et en même temps celle de son humour qui est légendaire pour les gens qui le connaissent. Donc je répète le titre, Histoire de langue et d'histoire, pardon, Études de langue et d'histoire occitane, Philippe Martel, édition Lambert-Lucas, 2015. Alicias.